Bonjour à chacun, chacune. C'est dommage que les enfants descendent. Mais cette semaine, j'ai introduit mes garçons à un grand classique du cinéma. J'ai nommé Retour vers le futur. Qui dans la salle l'a vu? Ça va, on va se comprendre. Bon, pas tout nouveau le film, hein, 1985 quand même, presque aussi vieux que moi. Mais avec pas mal de scènes mythiques et avec aussi beaucoup de plaisir de revoir ça, enfin, peut-être 10 ans que je n'avais pas vu. Et enfin, mes enfants ont l'âge de le voir, donc je peux en profiter aussi. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas vu, l'intrigue relate le voyage dans le passé d'un adolescent qui s'appelle Marty McFly à bord d'une machine à voyager dans le temps fabriquée par un docteur, Emmett Brown, à partir d'une voiture elle aussi mythique, la DeLorean DMC-12. Et donc, ils partent de l'année 1985 et sont propulsés le 5 novembre 1955, 30 ans auparavant. Et Marty, aidé du doc de 1955, doit résoudre des paradoxes temporels provoqués par ses propres interventions dans le passé. Et puis aussi, trouver le moyen de repartir à son époque en faisant fonctionner la machine. Alors, ça donne lieu à beaucoup de rebondissements. Et j'ai trouvé intéressant de revoir ce film parce que finalement, il y a des leçons spirituelles. Si, si, je vous assure. En fait, dans le film, Marty et Doc passent leur temps à essayer de réparer des distorsions temporelles qu'ils ont créées et qui ont des conséquences dans le présent. C'est-à-dire qu'un détail, une situation dans le passé, qui finalement n'est pas ce qu'elle aurait dû être, et puis, le présent est complètement différent de ce qu'ils avaient vécu jusqu'alors. Par exemple, Marty doit faire en sorte que ses propres parents se rencontrent et tombent amoureux, sous peine que lui-même disparaisse dans le présent, enfin 30 ans après. Bref, la réflexion métaphysique est la suivante. Nos actions et nos choix d'aujourd'hui influencent notre futur et celui de notre entourage, tout comme notre présent actuel est aussi influencé par nos choix du passé. Vous voulez que je répète ? Nos actions et nos choix d'aujourd'hui influencent notre futur et celui de notre entourage, tout comme notre présent actuel est influencé par nos choix du passé. Évidemment, on ne peut pas revenir en arrière, n'est-ce pas ? Et ce serait bien plus simple parfois. Suite à ce film, je me suis dit, mais qu'est-ce que je ferais différemment si je pouvais revenir en arrière? J'avais plein d'idées, mais évidemment, ça reste au titre d'idées. Alors, tout comme Retour vers le futur, la Bible traite de cette question métaphysique. Et ça a même donné lieu à une expression proverbiale, on récolte ce qu'on a semé. Galates 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. » Bon, vous savez que j'aime bien le jardinage. Bientôt, on va faire les semis. Et chaque jour, en fait, on sème. On sème avec amour aussi, mais on sème de semer. Et nous semons, même parfois sans nous en rendre compte. On sème autour de nous. La grande question, c'est est-ce qu'on souhaite semer des graines de vie éternelle ou des graines qui produisent des mauvaises herbes dans le futur? Et la Bible nous incite à bien peser ce que nous semons. Parce que il est malheureusement bien possible, en fait, de récolter les mauvaises herbes. Et une autre expression le dit justement, celui qui sème le vent récolte la tempête. Alors parfois, d'autres personnes ont semé dans nos vies. Des personnes ont semé autour de nous et on peut aussi en récolter les fruits. Et ça peut être à la fois positif, mais aussi tout à fait négatif. Et alors bien souvent, on ne se rend pas compte des fruits positifs issus de graines que d'autres ont semées. Peut-être on pense que c'est nous-mêmes qui avons atteint, on entendait le témoignage de la petite fille d'Annette et Jacques. Voilà, ses parents ont semé à un certain moment certaines graines. Alors, Dieu fait pousser, fait germer et fait grandir les convictions, et puis il y a la responsabilité de chacun. N'empêche qu'ils ont pris le parti de semer certaines choses. Et on voit des fruits aujourd'hui. Et, à contrario, combien de personnes, peut-être parmi nous, peut-être moi-même, combien de personnes sont bloquées par de mauvaises graines semées par leur entourage? Hein? Des graines du type t'arriveras jamais à rien, tu sers à rien. Le retour vers le futur, Marty a hérité en quelque sorte de la graine de la mauvaise confiance en lui à cause de son père. Son père, c'était pas, pour ceux qui s'en souviennent, voilà, c'était pas un modèle de confiance en lui et il a un peu transmis ça à son fils. Et pour le déstabiliser, il suffisait de le mettre au défi et de le traiter de ah, mauviette. Connaissez peut-être la réplique. Personne, personne ne me traite de mauviette. En tout cas, cette susceptibilité, ce manque de confiance en lui, ça lui fera faire au long du film aussi des mauvais choix et ça créera de nouveaux rebondissements. Mais plus sérieusement, combien d'entre nous traînons des casseroles familiales, si je peux m'exprimer ainsi? Combien d'entre nous sommes confrontés aujourd'hui aux conséquences des choix des autres avec des impacts négatifs? Parfois même, ça nous mène à nous culpabiliser pendant longtemps. Parfois même, on développe sa vie avec ces culpabilités-là. Et en fait, c'est une fausse idée. C'est même, j'irais jusqu'à dire, c'est une stratégie de notre adversaire pour nous faire faire du surplace. Je vais vous inviter à lire un passage dans Ézéchiel 18. Je mets un peu en avant certaines pensées que je voulais vous transmettre ce matin. Plutôt certaines pensées que je transmets sur la base de ce message. Ézéchiel chapitre 18. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le territoire d'Israël? Ce sont les pères qui mangent des raisins verts et ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, vous n'aurez plus l'occasion de dire ce proverbe en Israël. En effet, toutes les vies m'appartiennent. La vie du fils m'appartient aussi bien que celle du père. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. L'homme qui est juste, c'est celui qui applique le droit et la justice. Il ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la communauté d'Israël. Il ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant ses règles. Il n'exploite personne, il rend son gage au débiteur, il ne commet pas d'extorsion, il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un habit celui qui est nu. Il ne prête pas avec intérêt et ne cherche pas à faire du profit. Il ne prend part à aucune injustice et juge conformément à la vérité entre deux hommes. Il suit mes prescriptions et respecte mes règles en agissant conformément à la vérité. Celui-là est juste et il vivra, déclare le Seigneur l'Éternel. Verset 10. Supposons qu'il ait un fils violent, qui verse le sang et s'en prenne à son prochain. Ce fils n'imite en rien la conduite de son père, mais va jusqu'à manger sur les montagnes, il déshonore la femme de son prochain, exploite le malheureux et le pauvre, commet des extorsions, ne rend pas le gage, lève les yeux vers les idoles et s'adonne à des pratiques abominables. Il prête avec intérêt et cherche à faire du profit. Ce fils-là vivrait, il ne vivra pas. Puisqu'il a commis tous ces actes abominables, il mourra et son sang retombera sur lui. Supposons en revanche qu'un homme est un fils qui voit tous les péchés commis par son père. Il les voit, mais refuse d'agir de la même manière. Il ne mange pas sur les montagnes, il ne lève pas les yeux vers les idoles, il ne déshonore pas la femme de son prochain. Il n'exploite personne, ne prend pas de gage, ne commet pas d'extorsion. Il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un habit celui qui est nu. Il ne s'en prend pas aux malheureux, il n'exige pas d'intérêt et ne cherche pas à faire du profit. Il respecte mes règles, suit mes prescriptions. Celui-là ne mourra pas à cause des fautes commises par son père. Il vivra. C'est son père qui a exploité les autres, qui a commis des extorsions envers un frère, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est donc lui qui mourra à cause de ses propres fautes. Vous dites, verset 19, pourquoi le fils ne supporte-t-il pas les conséquences de la faute commise par son père ? C'est que le fils a appliqué le droit et la justice, c'est qu'il a respecté et mis en pratique toutes mes prescriptions. Il vivra. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Le fils ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son père, et le père ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son fils. Le juge sera préservé à cause de sa justice, et le méchant sera condamné à cause de sa méchanceté. Si le méchant renonce à tous les péchés qu'il a commis, s'il respecte toutes mes prescriptions et applique le droit et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra grâce à la justice qu'il a pratiquée. Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir ? Déclare le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et vivre ? Verset 24. Si le juste renonce à sa justice et se met à commettre l'injustice, s'il imite toutes les pratiques abominables du méchant, vivra-t-il ? Tous ses actes de justice seront oubliés parce qu'il s'est livré à l'infidélité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous dites, la manière d'agir du Seigneur n'est pas correcte. Écoutez donc, communauté d'Israël. Est-ce que c'est ma manière d'agir qui n'est pas correcte ? Ne serait-ce pas plutôt vos façons d'agir qui ne sont pas correctes ? Si le juste renonce à sa justice, s'il se met à commettre l'injustice et meurt pour cela, c'est à cause de ses actes d'injustice qu'il mourra. Si le méchant renonce à ses actes de méchanceté, s'il se met à appliquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. S'il ouvre les yeux et renonce à toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. On va s'arrêter là. D'abord, quelques mots de contexte sur ce passage. Alors, selon la chronologie du livre, l'intervention d'Ézéchiel a lieu auprès de la première vague de déportés de Jérusalem, c'est-à-dire en 597 avant Jésus-Christ, et donc avant la chute elle-même. Et la première déportation a fait suite à la rupture par Joïakin, le roi de Juda, de son traité de vassalité avec Nabucodonosor, l'empereur babylonien. Et donc Nabucodonosor a envoyé une expédition punitive contre Jérusalem et après un siège de la capitale, le roi a été arrêté ainsi que l'élite, on va dire, de la ville. Donc il y a, selon 2 rois 24-14, environ 10 000 personnes qui ont été déportées à ce moment-là. Et puis c'était des gens riches, des artisans, des fonctionnaires et vraisemblablement aussi des prêtres. Et Ézéchiel fait partie de ce groupe et c'est aussi à ce genre de personnes qui s'adressent. Et en fait, ces gens ont compris leur situation du moment comme une forme de punition divine pour les fautes des générations précédentes. Et une telle perspective, évidemment, pouvait facilement provoquer chez eux une sorte de vision fataliste et puis les amener à se résigner sur leur sort, sur un sort dont ils ne se sentaient pas vraiment responsables et en plus, ils étaient impuissants. Et donc, en quelque sorte, Dieu conteste dans ce passage cette lecture des événements et va offrir l'interprétation qu'on a lue. Alors, sans entrer dans tout le détail, il y a quelques idées fondamentales sur ce passage que je voulais partager avec vous. La première, c'est que chacun est responsable individuellement de ses actes et au niveau aussi de la justice sociale. Alors, selon un commentateur de ce passage, il y a l'absence du roi et des autorités desquelles on pouvait attendre la pratique de la justice et la responsabilité par rapport au peuple. Et donc, les prophètes de cette époque d'exil ont mis en avant la responsabilité des individus, promettant quelque part le salut à ceux qui pratiqueraient la justice et le droit. On a en quelque sorte démocratisé cette responsabilité et on l'a rendue plus individuelle et non plus collective au niveau du peuple. Et donc, la rétribution, la récompense ou pas, associé et aussi beaucoup plus individuel. Comment est-ce qu'on se comporte nous-mêmes vis-à-vis des injustices sociales ? Question. Est-ce qu'on blâme seulement le système? Est-ce qu'on accuse le gouvernement de ne rien faire ou de mal faire? En France, on est assez bon pour cela, vous savez. Ou est-ce qu'on prend notre part de responsabilité individuelle pour améliorer les choses? D'une certaine façon, et on peut être fier de ça, en France, il y a une grosse dynamique associative dans plein de domaines. Et bien, ces associations, c'est des gens qui prennent, vous en faites sans doute partie de certaines, prennent leurs responsabilités pour combattre certaines injustices que le gouvernement ou le système ne peut pas combattre, combat mal ou même parfois met en place. Et Ézéchiel, il met en avant un système défaillant, l'absence d'autorité établie puisque Israël était en déportation. Et je fais un parallèle, il y a beaucoup d'États défaillants dans le monde à l'heure actuelle, hein. Beaucoup de dirigeants corrompus et il n'y a pas forcément besoin d'aller voir très loin. Et ceux-ci ne cherchent pas, en fait, spécialement la justice sociale. Est-ce pour autant une raison de baisser les bras, d'être résigné, ou est-ce au contraire un appel à se mobiliser? Voilà pour ce premier point. Le deuxième élément, c'est que chaque génération est responsable d'elle-même et il faut se libérer des conséquences des actes de nos ancêtres ou de la génération précédente. Et le but d'Ézéchiel dans ce passage, il est clairement de convaincre les gens de sa génération qu'ils sont responsables de leur propre sort et qu'ils ne peuvent pas en accuser les générations précédentes. Il cherche donc, d'une part, à les libérer d'un certain fatalisme et surtout à établir qu'ils ont la capacité d'agir sur leur vie, sur leur situation, pour trouver la vie quelque part au milieu de leur épreuve. Et le texte fait état, où on peut avoir l'impression qu'il y a pas mal de redondance dans ce texte, mais en fait, il fait état de trois générations différentes. Versets 5 à 9, mettant en avant la première génération, que le juste vivra. Versets 10 à 13, que si quelqu'un agit mal, enfin s'il agit mal, le fils du juste mourra. Et versets 14 à 18, « S'il agit bien, le fils du méchant vivra. » Donc il y a trois scénarios illustrés par ces trois types de générations. Et finalement, au verset 19-20, on comprend clairement que chaque génération est responsable pour elle-même. Et je trouve que cette approche, elle donne de l'espoir, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. En effet, il y a souvent, parfois, jamais, souvent, peut-être, ça peut arriver, qu'il y ait un risque de blâmer nos parents pour ce que nous sommes aujourd'hui. Peut-être ça vous est arrivé, peut-être on vous a blâmé en tant que parent pour ce que les enfants sont. Des fois, on pense qu'on prend... Vous n'avez jamais remarqué, quand vous avez des parents, vous avez leurs enfants, vous avez l'impression que parfois, ils prennent juste les traits de caractère les moins bons des parents. Il n'y a que moi à penser ça. Bon. En fait, il existe un espoir pour chaque génération. Et ce n'est pas parce que vous êtes le fils d'un escroc ou d'un voleur que vous devez en supporter les conséquences et en reproduire les erreurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un a mal démarré dans la vie qu'il doit subir le choix d'autres personnes. Je ne dis pas que c'est facile, parce qu'effectivement, il faut parfois passer par tout un cheminement, par un processus, pour pouvoir se libérer de ce passé. Mais ce texte, quelque part, nous montre qu'il y a de l'espoir, et qu'on est en droit, d'une part, de ne pas se chercher des excuses pour nos propres comportements à cause de notre passé familial, c'est-à-dire qu'il y a la responsabilité individuelle quand même. Mais il y a aussi, en plus de ça, un espoir de changement pour nous et les générations futures. La troisième idée, c'est pas parce qu'il y a de l'espoir qu'il faut que les générations actuelles ne se préoccupent pas de l'avenir. Et je pense que c'est un point important, crucial même, parce qu'on pourrait croire que parce qu'il y a de l'espoir pour chaque génération, eh bien, ça pourrait conduire à une déresponsabilisation de la génération moins une, si je peux dire. On va prendre un exemple. Si on prend la problématique du dérèglement climatique, maintenant tout le monde sait ce que c'est, et qu'on le subit, on a des personnes qui blâment la génération des baby-boomers, comme on dit, comme étant responsable de l'épuisement des ressources naturelles et de la consommation à outrance, basée notamment sur le pétrole. Alors, au lieu de passer à l'action et de changer les choses, d'essayer, ces personnes sont encore au stade d'accuser en fait la génération précédente de ses méfaits et des conséquences d'aujourd'hui. À quoi bon, j'ai envie de dire ? On sait ce qui est. On a fait toutes les analyses et on est très bon pour faire les analyses. On est tellement bon pour faire les analyses qu'on a développé les objectifs du développement durable en 2015. On va faire presque 10 ans. Par contre, pour mettre des plans d'action en route, c'est beaucoup plus difficile. Il vaut mieux pas agir plutôt que de perdre du temps dans la recherche de responsabilité au sein du système. Et on entend aussi certaines personnes, certaines voix de ces personnes accusées, qui se dédouanent en fait elles-mêmes sur le système de croissance infinie dont le gouvernement avait fait la promotion pendant de longues décennies. Alors, je ne veux accuser personne aujourd'hui, ce matin, surtout pas, parce qu'on est tous dans le même bateau. Mais au final, il n'y a aucune attitude qui est vraiment juste. Il n'y a aucune attitude qui est vraiment juste, parce qu'il est toujours temps de changer nos habitudes de consommation. Celles-ci, on sait qu'elles ont un impact en matière d'environnement et de justice sociale, et je ne prétends pas du tout être un exemple à ce niveau-là. Beaucoup de chemin à faire. Mais plutôt que de blâmer et d'analyser, pourquoi est-ce qu'on ne va pas vers le changement du système ? J'aime assez une citation attribuée à Saint-Exupéry, que vous connaissez peut-être, qui reflète cette nécessité finalement d'interdépendance générationnelle, et qui dit « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. » On est un peu parti loin de retour vers le futur, hein, je conçois. En conclusion, j'aimerais conclure évidemment sur la note d'espoir qu'il y a dans ce passage, parce que Dieu appelle à quelque chose, Dieu appelle à un retournement. Il y a le mot employé, le verbe employé, c'est « chouv », C-H-O-U-V, désolé pour mon hébreu, qui veut dire « rendre, retourner, détourner ». Et ce mot-là vient, en fait, tout au long du passage. Il appelle à un changement de conduite. On en a parlé ce matin aussi. À une prise de responsabilité personnelle, à refuser le fatalisme du passé. N'est-ce pas ? C'est verset 31. « Débarrassez-vous de toutes les transgressions que vous avez commises. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël ? En effet, je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un, déclare le Seigneur l'Éternel. Changez donc d'attitude et vivez. » Waouh ! Un peu de la dynamite, ce passage. On peut penser que c'est trop d'efforts. C'est vrai que ça nous dépasse un peu. Moi, je le prends comme une promesse. C'est une voix prophétique qui le dit. Hein. Prendre comme une promesse et se souvenir que nous avons un grand Dieu capable de transformer les situations. Et j'aimerais finir sur un passage de Michée 7. Michée, qui est aussi un prophète connu pour rappeler au peuple de pratiquer la justice sociale, et on n'est pas entré dans le détail de l'énumération, mais vous avez bien vu que dans Ézéchiel, était fortement fortement en lien avec la pratique du droit et de la justice vis-à-vis des plus pauvres. Michée 7 nous dit la même chose, mais il nous dit qu'il y a une note d'espoir surtout, et que rien n'est jamais fini. Verset 18, il y a une clé pour ça, c'est d'aller vers Dieu. Quel Dieu est semblable à toi ? Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Il aura encore compassion de nous, il piétinera nos fautes. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Soyez bénis.